1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes et à tous, Yann avec vous sur Canal B, c'est l'émission Le Grand Tout, elle sera consacrée au festival des Tombées de la Nuit et qui vous propose de beaux spectacles. On a pu rencontrer avec Léa trois représentants, représentantes de spectacles à voir jusqu'à dimanche. Les Parts Manquantes tout à l'heure par la compagnie La Mort est dans la boîte, une promenade matrimoniale au Gailleul. C'est Léa qui parlera avec Laure Fontvieille. Et puis avant ça, je m'entretiendrai avec Inès Cassignol de la compagnie Sentimental Fool pour présenter la Ligue des Flûtistes, une création 2026 à voir ce jeudi, mais c'est complet, et vendredi du côté du Théâtre de Verdure du Tabor. Et puis dans quelques secondes, Léa rencontrait mercredi soir Valentin Dilas pour nous parler de Playback FM volume 1, une émission Le Grand Tout qui peut se résumer en trois mots: lip sync, fanfiction et matrimoine. Le fil rouge musical, ce sera Anki XX, la rencontre entre James Elegance et Goulvin Hamel pour une redécouverte de la country music à découvrir ce vendredi 3 juillet au Cloître Saint-Mélaine. Et la seule et unique chanson qu'on écoutera, divisée en plusieurs extraits, eh bien c'est une reprise d'un titre de Taylor Swift, The Last Great American Dynasty. Bonne émission à toutes et à tous.
South on the coast took a mind of St. Louis. Bill was the heir to the stone that owned name and money, and the dance said, how did a middle class divorcee do it? The wedding was charming with little gauche, that's only so far new money goes. The big got a home man calling it holiday house. But he was deathful, the flail loud. The doctor has told him to settle it down. It must have been hurtful, his heart gave out. They said, there goes the last great American dynasty. Who knows if she never showed up, what could it be?
Bonjour Valentin.
Bonjour.
On se trouve au Cloître Saint-Mélaine à Rennes et vous venez juste de sortir de scène. Mm. Comment ça va déjà?
Ça va super. C'était un lieu magnifique, un public qui fait du bien et c'est toujours un bonheur d'être à Rennes. Ça se confirme.
Votre spectacle, Playback FM, sous-titré « Ou comment les médias m'ont appris à parler », c'est en fait une heure de lip-sync, aussi appelée synchronisation labiale ou playback, sur un montage sonore où se mêlent interviews de célébrités, des directs à la télé ou à la radio plus ou moins ratés, ou encore des répliques de films. Et grâce au playback, vous incarnez toutes ces personnes ou ces personnages, à vous de me dire, pour notre plus grand plaisir. Alors comment vous est venue l'idée de ce spectacle ?
Je dirais que le playback depuis longtemps c'est un gros péché mignon chez tout comédien, comédienne. C'est quand même le fait d'incarner une personne, d'incarner la voix d'un autre au sens littéral. C'est toujours assez jouissif et j'avoue que j'en ai calé comme beaucoup, pas mal dans des créations collectives. Et ça, là, cette forme, on va dire que vraiment elle a été plutôt aidée et poussée par le public. C'est-à-dire qu'à un festival où j'étais bénévole, j'ai fait 15 minutes en 2022. Et tout le monde m'a dit, c'est super, fais-en plus. Du coup, ça a un peu agrandi, c'est passé à 20, puis 30, puis 40, jusqu'à arriver à 1 heure. Donc il y a eu bien 2 années, encore aujourd'hui, le montage continue à évoluer, à changer, des extraits s'en vont, d'autres viennent. Ça a vraiment été une chance assez dingue de pouvoir construire ce spectacle avec le public. C'est-à-dire autant de voir quel extrait fonctionne moins bien, et aussi et surtout avoir des, malgré le fait que j'ai beaucoup regardé la télé petit et que j'avais déjà une bonne banque de données, avoir des propositions aussi de personnes qui me disaient « Mais tu connais pas ça, tu connais pas Denis Glaser, Discorama ?» Et merci encore à cette personne qui m'a fait découvrir Denis Glaser et Discorama. Il y a eu pas mal de choses qui ont été aussi... Ça s'est vraiment construit avec le public, et c'est une énorme chance.
Il y a des extraits très variés parce qu'on a, du coup, comme je disais, un peu le médium télévisuel. On a aussi, à la fin, un peu Internet. Mais après, on voit aussi, enfin, on entend aussi Nina Simone. Comment vous avez fait, en fait, le choix de ces extraits? Donc, il y a le public qui a apporté un certain nombre d'idées. Mais est-ce que vous aviez un petit peu des extraits phares?
Oui. En vrai, c'est assez drôle parce que le premier petit spectacle de 15 minutes... En vrai, c'était déjà sensiblement le squelette de ce qui s'est passé aujourd'hui, mais de ce qui se passe dorénavant, à savoir de commencer avec ce jingle de Cool and the Gang, qui était le jingle de Ciné Dimanche, un film, c'était sur TF1 le dimanche soir, deux films ciné-orient, et il y avait donc ce début de... j'ai plus le titre de la chanson, mais de Cool and the Gang, et c'est... le titre va pas me revenir, désolé. Il y avait ça, il y avait Sophie Marceau à Cannes, et il y avait Nina Simone à la fin. Voilà, et ça s'articulait autour de ces extraits-là. Et c'est toujours sensiblement la même chose aujourd'hui, à savoir ça s'ouvre avec ça, ça se termine avec ça, et au milieu, on construit, pour chaque médium, on va dire, chaque médium a un thème. Et donc c'est comme ça aussi que ça s'est construit, à savoir le médium radio va plus être sur... des artistes qui parlent de la création et de la vie d'artiste. Le médium télé va beaucoup être des hommes et des femmes politiques dans tout ce qu'ils ont du meilleur et surtout du pire des politiciens actuels de notre pays. Le côté cinéma et le Festival de Cannes va être beaucoup dans une représentation, une domination masculine sur la féminité, là où Internet va être un peu une tentative de trouver l'amour, qui, spoiler alert, n'arrive pas.
Est-ce qu'il y a une tentation de tout prendre? Et du coup, est-ce que le fait de faire des choix, ça peut s'avérer un peu difficile?
Alors oui, de manière générale, faire des choix n'est pas mon agilité première. Donc c'est sûr que ça a été compliqué de renoncer à certains, oui. Après, bizarrement, malgré cette difficulté à faire des choix, ça a été plus évident, on va dire, et plus fluide avec ce projet, dans le sens où de toutes les étapes, les strates de lecture, ça tombait assez souvent sous le sens, à savoir est-ce qu'en termes de rythme déjà ça tient la route, est-ce qu'on continue à accrocher les personnes avec ou pas, est-ce que dans ce que ça raconte je suis content de ce que ça raconte, ou est-ce qu'au contraire ça va être un contresens et auquel cas il faut vite changer ça. Et voilà, on va dire que c'est ça les deux premières. Il y en a beaucoup d'autres, mais les deux premières et principales ont été ça. Et c'est vrai que assez vite, ça paraît toujours assez évident rien qu'à l'oreille et dans le montage: tiens, est-ce que ça fonctionne ou pas? Est-ce que ça fonctionne dans le rythme? Et qu'est-ce que ça raconte? Et après, bon, comme d'hab, il y a le merveilleux passage devant le public, où là, tu vois très bien si ça marche ou pas.
Et donc, il y a aussi des extraits de passages télévisuels. Du coup, vous avez également la manière dont la personne, en fait, était physiquement, corporellement dans le moment. Est-ce que ça vous inspire plus ou moins, ou ça a plutôt peut-être tendance à vous bloquer, ou à trop vous inspirer? Mais...
À part sur certains, c'est pas tant inspirant. Assez vite, l'image disparaît, il n'y a plus que le son. Et là où c'est le plus intéressant, c'est qu'est-ce que le son raconte? Qu'est-ce que la manière de parler raconte? Quelle posture peut avoir cette personne qui est en train de parler? Comment elle se tient? Qu'est-ce que ça évoque vraiment à l'oreille? Et ça, c'est quelque chose qui était déjà présent dans le 1 et qui s'est confirmé de manière assez énorme avec le volume 2. C'est qu'il n'y a pas une manière de parler similaire. En tout cas, dans la francophonie, de toutes les personnes qu'on a rencontrées, ça continue à me dire c'est fou comme on a tous et toutes une manière propre à nous de s'exprimer. Un timbre de voix, des expressions, des mimiques, des tics de langage qui font que tout le monde a sa manière de s'exprimer.
Et il y a des personnes qui sont plus ou moins rodées à l'exercice. Dans votre spectacle, il y a par exemple Nicolas Sarkozy.
Oui.
Et il y a aussi une petite fille sur un plateau télé qui est toute timide.
À l'école des fans.
Sûrement. Voilà, donc vous avez aussi plein de manières de présenter, voilà, une pluralité de voix et de manières de prendre la parole. Est-ce que cette création a renforcé chez vous l'idée que finalement, oui, c'est un exercice et c'est un apprentissage, et on n'est pas tous égaux dans l'exercice.
Ah oui, dans l'exercice de parler en public ou de parler à un micro, à un Zoom ou autre, oui. Ça, c'est, j'étais déjà convaincu de ça avant même le début de ce spectacle, c'est sûr que ça l'a confirmé. C'est pas pour rien qu'il y a plein d'entraînements qui existent et c'est pas pour rien malheureusement que les politiques sont souvent très bons à cet exercice, quand bien même ils ont beaucoup de choses à se reprocher. Oui.
Qu'est-ce que ça change pour un comédien d'interpréter une voix plutôt qu'un texte écrit ?
Je dirais que la grosse chose très positive par rapport à ça, c'est que, encore une fois, le rythme est déjà là. C'est-à-dire que le rythme a été conçu en amont et il y a quelque chose qui est extrêmement plaisant dans le fait de se plonger dans la respiration et la manière de parler de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est, pour le coup, ça serait vraiment comme un texte de théâtre. Quand on a un texte, qu'on l'apprend, quel est le sous-texte qu'on met, où est-ce qu'on va mettre ses propres respirations, qu'est-ce que ça va raconter. Et encore une fois, sur un texte de théâtre qui est écrit, on peut raconter un milliard, voire une infinité de choses différentes selon la manière dont on la joue. Donc c'est sûr qu'avec une voix, une respiration, un timbre qui est déjà là et qui est déjà posé, et un rythme, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à se glisser dedans et restituer avec fidélité et caricature, parce que c'est de ça dont il est question, hein, du début à la fin, pastiche ou caricature, comment justement grossir ces traits-là de la personne, de sa manière de s'exprimer.
Vous jouez aussi énormément avec le public,
oui.
Mais ça vient un peu petit à petit, oui, au fil du spectacle. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez imaginé dès le début quand vous avez commencé à jouer, ou est-ce que c'est venu comme ça au fur et à mesure ?
C'est venu assez vite pour deux raisons. Déjà parce que dans les extraits choisis, il y avait un moment où autant il y a certaines personnes, certaines personnalités que je préférais avoir en off et ne pas les faire exister, autant il y avait d'autres jeux d'interview, de questions-réponses où ça devenait plus intéressant d'avoir un jeu qui s'établit avec le public. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, et c'est clairement ça le truc le plus évident de pourquoi c'est venu ce jeu avec le public, c'est que ça utilise très fort les codes du stand-up, que j'adore, mais qui me tétanise quand le stand-upper ou la stand-upper s'adresse d'un coup d'un seul à la personne du premier rang et que c'est vous, il y a un peu une liquéfaction qui se crée. On sait jamais trop ce qui va se passer, est-ce que ça va bien se passer ou pas. Il y a cette chose un peu tendue qui malgré tout reste hyper agréable parce qu'hyper théâtrale dans le stand-up. Et c'est vrai que de réutiliser ce code-là en donnant la parole à une personne, mais en ne lui permettant pas de s'exprimer, puisque l'extrait est déjà en cours de route, et quel que soit ce que la personne fait, c'est-à-dire qu'elle parle, qu'elle baisse la tête, qu'elle rigole ou qu'elle joue le jeu, le spectacle, l'écriture en tout cas du spectacle sera la même. Et en plus, en fonction de ce qui se passe, c'est là où ça va donner du jeu très différent à chaque représentation.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des réactions ce soir ? Parce que moi, j'étais un peu trop éloignée pour, oui, voir la réaction des personnes. Vous avez eu quoi aujourd'hui ?
Plutôt très joueur. Très joueur, très joueuse aujourd'hui, oui. C'était très agréable.
Donc des personnes qui faisaient du playback,
qui jouent, qui miment le fait de je réponds, voilà. Il y a surtout eu ça. Un peu de, parce qu'il y a à chaque fois tendre un micro à quelqu'un, même si clairement c'est un micro accessoire, hein, il n'est pas branché, il n'y a pas de... Ça se voit qu'il n'y a pas possibilité de s'exprimer avec ce micro accessoire. Il y a toujours une petite gêne. Dès que le micro arrive, ça fait genre « Ouh, baisse la tête !» Et après, on joue le jeu. C'est souvent ça, ça se passe comme ça.
Parlez-moi un peu de vos inspirations. Est-ce que vous regardez Drag Race, par exemple ?
Oui, bien sûr. Oui, j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai que dans la construction, c'est vrai que ce spectacle, en tout cas les 15 minutes dont on parlait au début, sont venus aussi après le confinement. Et il y avait quand même cette grosse question d'une part de comment faire un spectacle dans une vie et une économie qui paraît de plus en plus compliquée post-Covid. Donc il y avait vraiment cette volonté d'avoir un spectacle qui peut tourner seul, donc d'avoir un montage sonore déjà fait, de ne plus avoir qu'à appuyer sur play et hop ça joue. J'étais tout seul au début avant d'avoir une équipe et c'est quand même toujours un bonheur total, hein, d'avoir un régisseur ou une régisseuse avec ça. Il y a eu ça, c'est vrai que pendant le confinement, c'est là où je pense que je me suis un peu maté tous les épisodes de RuPaul que je n'avais pas encore vu jusqu'à présent et que depuis toujours, même sur la scène, c'est un énorme bonheur à voir des battles de lip sync. Ça, le fait de devenir d'un coup une personne, un chanteur, une chanteuse dans un show à l'américaine en mode Hollywood alors que on fait semblant, ça m'a toujours assez fasciné. Donc il y a eu cette question qui est venue assez vite de tiens, est-ce que ça tient la route que ce battle de lip-sync soit fait d'une part seul et d'autre part sans musique, quasiment sans musique, mais uniquement avec des voix. Donc bien sûr que le drag, merci au drag d'exister, a été une énorme inspiration.
Et l'exercice, il est très physique. Comment est-ce que vous vous mettez en condition pour un spectacle? On veut les petits secrets avant spectacle.
Si je me masse quand même le visage, voilà, il y a un petit échauffement, mais en vrai de vrai, non. Je vais dire la vérité. Je bois quand même un petit verre de blanc quand je me sens un peu fatigué 30 minutes avant le début du spectacle. Désolé de le dire, mais c'était le cas ce soir. Petit coup de mou, mais surtout après, il y a une playlist d'avant spectacle et du coup, j'en profite pour être présent avec le public, aller les voir, être assis sur ma chaise, commencer déjà à playbacker les chansons, chose qui n'arrivera pas après pendant le spectacle, et voilà, de déjà être dans ce millimètre, cette précision en tout cas, de la voix des chanteurs et des chanteuses.
Ce soir, on a vu Playback volume 1.
Ouais.
Ce jeudi, on va voir Playback volume 2. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette pièce?
Ouais. C'est la suite un peu directe, même si les deux spectacles sont interdépendants l'un de l'autre. Je dis direct parce que ça a toujours été cette construction avec le public dont on parlait au début. Il y a eu... c'était toujours assez dingue après ce volume 1, les discussions qu'il y avait et à quel point on a tous et toutes des moments, des voix, des personnes, des présentateurs, des présentatrices qui nous ont marqués pour des raisons assez différentes. Et il y a eu dans pas mal de discussions des choses hyper intimes qu'on a commencé à me livrer. Et notamment une fois une personne qui voulait vraiment me dire « Mais tu vois pas à ce moment cette présentatrice météo qui dit… » Et vraiment on a passé la soirée ensemble à essayer de retrouver quel était cet extrait avant que cette personne finisse par se rendre compte que l'extrait en soi était assez anodin. C'est juste que le lendemain, la présentatrice météo annonçait la singe, je ne sais même plus le prénom, et qu'ils étaient en froid avec sa maman à ce moment-là, et qu'en fait c'était le nom d'un oncle qui était décédé il n'y a pas longtemps, et qu'en fait juste l'annonce de cette présentatrice météo a fait qu'ils se sont réconciliés avec sa maman. Il y a un peu un truc de c'est fou, comme même un bulletin météo peut, l'air de rien, s'immiscer dans l'intimité de chacun chacune et déclencher un peu... quelque chose d'assez fort. Donc c'est né de là, on va dire. J'ai commencé à enregistrer des personnes avec leur accord évidemment, et en posant du coup cette question qui a été la grosse question du volume 2, c'est quoi toi le moment médiatique qui a marqué ta vie? Et on a fait donc une grande collecte de témoignages dans toute la francophonie, principalement là où jouait le volume 1, aussi pour être très au clair avec les personnes qui voulaient se prêter au jeu, même s'il y avait leur accord, que ce soit très clair le fait que vous avez vu ce qu'on fait des voix, on va caricaturer, on va grossir les traits, on va grossir les manières de s'exprimer de chacun chacune. Est-ce qu'on est sûr que c'est bien ok pour vous? Donc ça a beaucoup été du public du volume 1, ça a beaucoup été ensuite pendant les résidences de ce volume 2, ça a été un peu de micro-trottoir, mais force est de constater que ça n'a jamais vraiment bien marché. Et donc pareil, c'est un peu le même système de gros montage médiatico-nostalgique, mais avec cette fois les voix non plus de personnalités médiatiques, mais la voix de monsieur, madame, tout le monde, qui nous raconte leur moment médiatique et en sous-texte évidemment leur rapport aux médias. Et cette fois-ci, on est trois sur scène, à playbacker.
Et ça me fait penser à un moment là du volume 1. Donc Gainsbourg, cette séquence avec Whitney Houston, on l'a beaucoup vue,
oui.
Mais j'ai l'impression que. Elle n'est pas interprétée de la même manière aujourd'hui en 2026 qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Et dans le public, il y avait des personnes de tous les âges. Et c'est vrai que ça a rigolé, mais pas tant que ça non plus. Et puis en fait, il y avait aussi un peu d'autres moments qui étaient un peu sur des thèmes similaires. Et est-ce que, bon, je ne sais pas depuis combien de temps tourne le volume 1, mais est-ce que...
Ça va faire 3 ans.
3 ans ?
Ouais.
Et est-ce que vous voyez qu'il y a, voilà, il y a des moments de télé en fait, qui aujourd'hui... passe plus.
Ah oui, complètement. Cet extrait-là, je suis content que vous en parliez parce qu'il est assez fondateur dans ce projet, à savoir, moi, à tous les bêtisiers de Noël, comme beaucoup d'autres personnes, on avait cet extrait-là. Et force est de constater que comme le public est hilar, la famille aussi, devant sa télé, en tout cas la mienne et beaucoup d'autres, est hilar aussi parce qu'il y a eu... et enfin, ça a mis du temps à se passer, mais jusqu'à présent, on est tous... focus sur Gainsbourg en se disant « Ah ah ah, comme il est rigolo, comme il y va, là 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 !» Et enfin, ça fait pas si longtemps, mais enfin maintenant, on se met aussi à la place de la personne en face, de la femme, en fait, chose qui n'était pas trop le cas jusqu'à présent. Et c'est vrai que même son... c'est tout léger, mais elle lui dit elle lui lâche vraiment un hyper choqué « What? What did you say ?» Genre « Qu'est-ce que t'as dit ?» Et quand tu re-regardes l'extrait aujourd'hui, il y a quand même quelque chose de dingue de... voir qu'elle est mais hyper mal à l'aise et qu'en fait elle se marre parce qu'elle voit que la salle est hilar, que du coup on lui a présenté apparemment la plus grande vedette, la plus grande star de la chanson française aujourd'hui, mais qu'elle sait pas où se mettre, la pauvre, on peut que la comprendre, et que lui il est dégueulasse, il est immonde, il essaie de la tripoter, elle gentiment elle le repousse. Enfin, il y a vraiment un truc où heureusement que ça ne passe plus aujourd'hui. Là où je dis qu'il est fondateur, c'est qu'il y a vraiment cette volonté d'avoir ces anciens extraits et de les remettre un peu au goût du jour et de réexpliquer pourquoi en fait ça c'est plus possible. Alors c'est sûr qu'à l'inverse, j'ai déjà eu des plus jeunes, et je peux tout à fait l'entendre, on a beaucoup discuté de ça, qui ne connaissent pas Gainsbourg et qui me disent en fait moi ce moment me met mal à l'aise, le moment où tu joues un gars un peu ivre qui dit I want to fuck you à une personne. On m'a quelquefois dit à partir de là, par rapport à cette chose du micro, j'ai pas eu envie que tu viennes vers moi me tendre le micro, ce que je peux comprendre. Et de manière générale, c'est ça que j'essaye de raconter avec ce spectacle, c'est que en fait, si un journaliste d'une grande chaîne, un journaliste mainstream vient te tendre un micro, parfois il vaut mieux ne pas répondre.
Peut-être que la prochaine fois vous jouerez Whitney.
Oui, je la joue aussi. Le what did you say, je le prends complètement en compte pour souligner quand même le en fait, mais qu'est-ce que tu viens de dire ? Il y a eu ça, c'est vrai qu'on en reparle avec ces personnes qui du coup sont un peu, mais pourquoi du coup mettre dans ton spectacle cet extrait-là. Pour moi, c'est pour rappeler qu'en fait, cette chose-là, elle a existé il n'y a pas si longtemps, qu'elle a été présente et que je ne crois pas que l'effacer, ce soit la meilleure des solutions. Au contraire, je crois que c'est très bien de dire que ce truc-là a existé. Pourquoi ça ne doit plus exister aujourd'hui ? L'effacer, j'ai un peu l'impression que c'est la meilleure manière pour que ça réarrive dans pas longtemps.
Et il y a d'autres moments aussi hilarants dans votre spectacle. Vous choisissez, alors pas tout le temps... la célébrité, mais des fois c'est le présentateur que vous choisissez d'interpréter. Comment vous y êtes pris ? Est-ce que vous saviez directement que dans cette séquence c'est le présentateur que je vais essayer d'interpréter, ou vous avez testé un petit peu toutes les personnes présentes autour de ce plateau télé, radio ?
Oui, il y a plus eu de ça, de tiens on va tester qu'est-ce qui est le plus intéressant théâtralement, encore une fois. C'était vraiment qu'est-ce qui va le plus raconter de choses sur une scène. Il y a eu aussi quelques personnes que je n'avais pas envie, très clairement, de personnalités que je n'avais pas envie de playbacker, donc d'interpréter. Mais en vrai, la chose fondamentale, c'est un peu le hors-champ. C'est-à-dire qu'en fait, les présentateurs des journaux ne sont pas les personnes les plus filmées. On les filme quand ils posent des questions, mais on ne les filme pas quand ils écoutent les réponses, et surtout quand ils galèrent à essayer de continuer à mener un débat. Et en vrai, là encore une fois, c'est un spectacle, donc c'est qu'est-ce qui va être le plus théâtral. Et clairement, avoir joué le hors-champ, c'est-à-dire la chose qu'on n'a pas vue à la télé, qu'on ne verra jamais, parce qu'elle n'est pas filmée. Je repense à cet exemple avec Gilles Boulot, qui essaye de maîtriser un débat politique, qui part en cacahuète et qui est là à répéter le prénom de la personne pour l'arrêter, et qui galère. Il galère tellement. Là, sur cet extrait, si tu le vois, il est disponible sur YouTube, il n'y a que des plans larges, des plans de coupe. En fait, tu sens que le réalisateur, à ce moment-là, il galère, il ne sait plus quoi faire. Et donc, c'est sûr que c'était ça pour moi le plus intéressant. C'est tiens, et si là, le réalisateur avait fait un gros zoom sur les deux présentateurs, présentatrices qui galèrent à fond sur cet extrait, mais comment ils sont ? Et c'est vrai que sur cet extrait, encore une fois, un dernier truc qui me fait mourir de rire, c'est qu'on entend sa collègue qui lui dit mais arrête-les. Et tu vois, elle lui susurre à l'oreille, mais ça s'entend quand même. C'est ça qui me fait le plus rire. C'est quand, la télé, au final, montre un peu son vrai visage, malgré toute sa tentative de rester sur une apparence de tout beau, tout gentil. Quand il y a des choses qui leur échappent, c'est là qu'on voit véritablement comment ça se passe.
Tout à fait. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
Non, trop hâte d'être là demain. Encore merci aux tombées de la nuit. Ça fait vraiment plaisir d'être dans un si beau festival. Il y en a plein d'autres là tout le printemps, tout l'été. On espère fort que ça va durer. Et il y a quand même pas mal de festivals qui sont menacés, coupés, des spectacles qui sont annulés pour des raisons soit budgétaires, ce qui est affreux, mais soit idéologiques et politiques, ce qui est absolument abominable. Donc c'est sûr que voir qu'il y a un public qui est là, qui répond présent à l'appel, ça fait vraiment chaud au cœur. J'invite chacun et chacune à se pencher pour ces élections qui arrivent il y a un an, qui est vraiment pour les cultures, les associations et donc pour le bien commun.
Merci beaucoup Valentin Dilas.
Avec plaisir.
Merci à Léa qui a bien apprécié Playback FM volume 1 mercredi soir au Cloître Saint-Blaine. Vous retrouvez Valentin Dillas pour Playback FM volume 2 toujours au Cloître Saint-Blaine ce jeudi soir à 19h30. On poursuit avec encore un petit extrait de cette chouette relecture d'un titre de Taylor Swift par Anki XX en concert vendredi soir au Cloître Saint-Blaine au tombé de la nuit. Et puis juste après, eh bien, on parlera avec Inès Cassignol pour nous présenter la Ligue des flûtistes, une création d'un conte médiéval à découvrir au Tabor pendant les tombées de la nuit. The most shameless woman this time has ever seen. She had a mother's time, ruining everything. Le Grand Tout se consacre aux tombées de la nuit ce jeudi et vendredi aussi, avec des contributions de Nadia et puis de Léa. Et puis moi-même, je reçois aujourd'hui Inès Cassignol. Bonjour Inès.
Bonjour Yann.
Qui est metteuse en scène, autrice pour la compagnie Sentimental Fool et dont vous pouvez retrouver cette création, La Ligue des flûtistes, à deux reprises. Peut-être vous aurez envie de le voir deux fois, ce spectacle, jeudi et vendredi, au Théâtre de Verdure du Tabor, je dirais l'enfer du Tabor, à 18h. C'est un conte musical, une épopée dans laquelle on retrouve de l'aventure, de la magie, du suspense, des rires aussi, évidemment. Inès Cassignol, on te connaît bien, de la broderie jusqu'au bout du Mississippi, d'un conte gallo et français adapté de Jeanne Malivelle jusqu'à cette rencontre entre le joueur de flûte de Hamelin, Harry Potter. Henri Potier, je devrais dire. Tu aimes écrire des histoires et les mettre en scène avec cette compagnie. Ça remonte jusqu'à loin, j'imagine, l'écriture de la Ligue des flûtistes, en tout cas dans les germes de l'écriture, dans tes goûts littéraires, par exemple.
Effectivement, l'écriture de la Ligue des flûtistes, elle va puiser dans l'adolescence avec l'apparition d'Internet. Moi, je me souviens que j'étais sur des forums de fans d'Harry Potter. Et j'ai essayé de jouer aux jeux vidéo CD-ROM. Et c'est aussi le moment où j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux, la littérature médiévale. Et tout ça m'a donné envie d'écrire et de raconter des histoires. C'est ça qui est convoqué aussi. Et pour Félix Masson, qui est co-auteur et compositeur du spectacle, Félix lui aussi a écrit des fanfictions. Enfin, il a écrit des fanfictions quand il était ado. Et il fait aussi du jeu de rôle. Enfin, donc il y a cet univers où l'écriture, elle est partagée, elle répond à l'envie de prolonger un univers qu'on adore.
Les inspirations, elles viennent clairement pas du théâtre classique.
Il y en a quand même parce que on fait appel à des formes de narration assez traditionnelles, le conte et la cantastoria, le fait de montrer des images et de compter à partir d'images. Ça, c'est des formes qui sont assez classiques et traditionnelles. Et il y a des codes de théâtre qui sont assez classiques aussi. Mais le récit ne l'est pas.
J'ai pu voir une version couturière, dit-on, dans le théâtre, justement, classique pour le coup, mardi soir. Rappelons ce qu'est une couturière.
C'est un nom qu'on utilise pour nommer la représentation qu'il y a avant la générale. Donc c'est l'avant-dernière. Et on dit couturière parce que c'est le moment où on vérifie les costumes.
C'est un spectacle adapté, peut-être tu le dis, de cette cantastoria. Cantastoria, ça a une histoire assez ancienne finalement. C'est plutôt populaire en Italie, mais ça vient aussi d'Asie. J'ai pu voir qu'il y en a au Japon, en Inde.
Tout à fait. En fait, on retient le nom cantastoria. Enfin, moi, c'est avec ce nom que j'ai découvert cette forme-là qui mêle récit musical et image dans un dispositif très pauvre. Mais il y a d'autres noms, mais c'est de la narration d'images. On a aussi le kamishibai, ou le krenki, où c'est un rouleau déroulé. Enfin, et c'est une forme qui vient d'Inde, effectivement, et qui au Moyen-Âge s'est répandue de par le monde.
Avant de parler un peu plus d'écriture, peut-être un peu de scénographie aussi très importante, plongeons dans l'histoire tout de même un petit peu et suivons ce récit épique qui nous voit suivre les deux sœurs Pepperglad, Estella et Lune. On a un magicien, Henri Potier. On a un parchemin qui parle, et il est fort ce parchemin-là. On a un flûtiste, on l'appellera la flûte, et puis on a aussi la tourterelle baby. J'en dis pas plus sur les personnages, je crois qu'on a à peu près tous ceux qui sont présents sur scène. Et il y a cette rencontre effectivement entre le joueur de flûte de Hamelin, mais peut-être la version de Jacques Demy, je sais pas, avec le pâtre Donovan qui va emmener les enfants loin, loin, loin. Ça se passe pas exactement comme cette histoire qu'on connaît, parce qu'en fait, il y a plusieurs variantes du joueur de flûte de Hamelin, en fait. Et vous en donnez une.
Le joueur de flûte de Hamelin, c'est une légende qui est née d'un fait divers, la disparition d'enfants dans le village de Hamelin au Moyen-Âge. Au fil du temps, il y a eu l'apparition de la légende, à savoir un flûtiste enchanteur qui sauve une ville infestée de rats. Voilà. Et effectivement, Jacques Demy en a fait un film avec Donovan, grand compositeur et chanteur de folk que j'adore. Et c'est vrai que là, l'idée, c'était de reconvoquer cette légende et de tirer les fils des questions qu'elle pose sur l'enchantement, la mort, et il y a cette histoire d'enfants qui disparaissent. Et sont-ils sauvés ou sont-ils tués? Il y a une ambivalence dans la légende, qui est une légende assez sombre d'ailleurs, et qui est ici reconvoquée.
Une légende qui évoque aussi la cupidité des humains. Bon, c'est peut-être moins dit, peut-être dans la Ligue des flûtistes, mais il y a d'autres problèmes inhérents à l'humain qui sont évoqués aussi, des problèmes très contemporains, ceux-ci, qui nous éloignent un tout petit peu de cet ensemble entre conte médiéval, roman gothique aussi, parce qu'il y a un personnage que je ne vais pas citer là d'ailleurs, qui va apparaître. Et puis il y a aussi un petit peu, oui, tu le disais, ton goût pour la littérature de fantasy, Tolkien par exemple, bah oui, il est là aussi à travers des animaux magiques, forcément. Et puis les Monty Python. Moi j'ai pensé forcément aux Monty Python, Sacré Graal, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ce spectacle.
C'est effectivement un spectacle parodique et humoristique, avec des jeux de mots, le plaisir de subvertir des histoires connues, des histoires qui font partie de notre culture populaire, et le plaisir de se les réapproprier et d'en faire un nouveau récit. Et effectivement, il y avait l'envie de s'émerveiller et de s'amuser. Donc la référence au Monty Python, pour ça, moi,
ça te va.
Elle me fait plaisir. Ouais.
Alors ce sont deux sœurs zoologues, c'est l'une et Estella Pepperglad, et puis même si elles vivent dans un temps peut-être reculé, mais on ne sait pas, c'est pas vraiment dit, c'est un peu comme Games of Thrones, on ne sait pas quand ça se passe, elles ont accès à la technologie moderne, en tout cas au début on voit une sorte d'écran d'ordinateur qui va se transformer, je ne dis pas en quoi, mais il va se transformer, mais il a peut-être un style un peu à l'ancienne quand même, enfin à l'ancienne. À l'époque de ta jeunesse, peut-être.
Les années 90-2000, on est dans le bureau d'un ordinateur qui est reconstitué de façon assez naïve. Ça permet de faire un clin d'œil aux fanfictions, un monde littéraire qui a explosé avec l'apparition d'Internet, mais qui existait bien avant à travers notamment des fanzines. Et aussi, ça permet d'associer la magie du monde d'Harry Potter et la magie de la baguette, de la mettre en critique et de l'associer au monde technologique numérique.
À propos de Harry Potter, on le sait, l'autrice J.K. Rowling est plus que problématique, et vue évidemment de cette manière-là, parce qu'elle a quand même des propos qui ont été jugés, et qu'ils sont, je crois, anti-trans, en fait, avec Sentimental Fool, vous prenez totalement le contre-pied de ça, évidemment, en utilisant notamment une manière inclusive de nommer les personnes.
Oui, le texte utilise l'écriture inclusive. Et J.K. Rowling finance aussi, elle est très politique et elle finance des associations qui luttent contre les personnes trans. Et évidemment, personne dans l'équipe ne valide les positionnements politiques de J.K. Rowling. Et de même, énormément d'auteurs et d'autrices de fanfiction sont contre J.K. Rowling, mais utilisent l'univers qu'elle a créé pour continuer de raconter des histoires. Harry Potter, c'est un univers littéraire et c'est aussi une marque déposée et un empire financier. Et par le biais de la parodie, l'enjeu, c'est par le biais de la parole aussi, de se réapproprier ce que c'est qu'une histoire de magie. Enfin, moi, j'avais envie aussi de montrer qu'on peut s'amuser avec la langue et jouer avec les limites et de sortir aussi d'une sorte d'hégémonie d'un personnage sur le monde de la fantasy et de tirer du coup des fils en ramenant du légendaire médiéval et aussi des références à des autrices de fantasy que j'adore comme Ursula Le Guin ou Nicolas Griffiths qui ont beaucoup travaillé sur un rapport plus philosophique et plus féministe à la fantasy.
Tu as cité plusieurs fois le terme de fanfiction. Il y a un site qui existe sur le net, fanfiction.net. Et si vous cherchez Dorothée Webb, eh bien, vous trouverez peut-être une partie de la Ligue des flûtistes. Alors, je vous conseille évidemment pas de le lire avant d'aller voir le spectacle. Ce serait un petit peu dommage de se gâcher la découverte et le plaisir de cette découverte-là. Mais quand même, je veux bien que tu nous parles un petit peu plus de ton rapport avec la fanfiction. Est-ce que tu en as lu beaucoup? Est-ce que tu en as écrit beaucoup? Et puis ce site fanfiction qui semble venu d'une autre époque et qui subsiste encore un petit peu, tant bien que mal.
C'est vrai que le design du web est un peu démodé et le site est peut-être moins fréquenté qu'à une époque. Il y a un autre site qui s'appelle AO3, où j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus utilisé. Moi, j'ai découvert la fanfiction il y a quelques années en me disant « j'aurais adoré connaître ça quand j'étais ado ».
Pourquoi? Pour pouvoir prolonger les univers qui te plaisaient déjà?
Oui, et en fait, il se trouve que depuis quelques années, j'ai écrit des réécritures de légendes. Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais de la fanfiction, mais sans savoir que c'en était. Et j'ai été fascinée par ce monde-là, et donc j'en ai lu, évidemment. Et j'aime bien le mauvais genre, un peu, que c'est. Et l'aspect complètement prolifique de la fanfiction, et le fait que c'est assez méprisé. Enfin, je me suis dit, tiens, dans l'espace public, c'est intéressant d'amener ce monde-là. Voilà. Après, nous, on a écrit une pièce de théâtre qui est coproduite, subventionnée, la compagnie est professionnelle. Donc, quelque part, on peut pas dire que c'est une vraie fanfiction, mais le spectacle, il se veut être un hommage aux auteurs et aux autrices de fanfiction.
Bon, c'est certain que c'est plus que ça, évidemment. Mmh. Et tout de même, ça reste quand même une fanfiction. Mais on est entre les deux comme ça. Il y a de la musique, beaucoup de musique dans la Ligue des flûtistes. On va parler de cette belle partition et de cet ensemble de comédiens et la scénographie aussi. On n'a pas beaucoup parlé, on va y revenir.
Avec plaisir.
Le petit joueur de flûteau menait la musique au château pour la grâce de ses chansons. Le roi lui offrit un blason. Je ne veux pas être noble, répondit le croque-note. Avec un blason à la clé, mon la se mettrait à gonfler. On dirait partout le pays. Le joueur de flûte a trahi.
Le petit joueur de flûteau, sélection de Inès Cassignol, notre invité aujourd'hui dans le Grand Tout spécial Tombée de la nuit, première de deux émissions, jeudi et vendredi. On parle de la Ligue des flûtistes, un conte, une première, c'est une création, ce conte à Rennes, à voir jeudi et vendredi au Théâtre de Verdure. Il y a beaucoup de musique dans ce conte musical. Certains moments, vous peut-être vous renvoyez, moi ça m'a fait penser parfois à quelques BO de dessins animés de Walt Disney, j'ai pensé un petit peu à Robin des Bois par moment, au Livre de la Jungle, à d'autres. Bon, et puis il y avait à l'instant Georges Brassens, et puis il y a quoi d'autre finalement dans ce qui est venu alimenter la création de cette bande-son par Félix Masson?
Il a écrit les paroles des chansons, certaines on les a co-écrites et il a participé à la conception de l'histoire. Et dans les références qu'il nomme, il y a tout ce qui est de la comédie musicale Disney. La façon de composer les génériques de films épiques, par exemple la BO d'Harry Potter, ou celle du Seigneur des Anneaux, qui sont, il faut quand même le dire, composées par des super compositeurs. Voilà. Donc là, je crois qu'il a puisé dans ce langage-là pour après créer des morceaux originaux. Et on est, en fait, comme dans l'histoire, on est dans un registre un peu parodique aussi. Il y a Il y a, les chansons sont en français, donc on a Félix l'a aussi puisé dans des références de chansons françaises, et notamment pour l'air du joueur de flûte de Hamelin qui chante une chanson, c'est inspiré d'André Mainvielle. Une musique très joyeuse, aérienne et très joueuse sur les mots aussi.
Mention vraiment particulière à la troupe, parce que ils jouent et elles jouent et elles chantent. Et il y a un duo des deux sœurs Pepperglad qui est absolument fantastique, avec les deux voix qui sont vraiment belles l'une à côté de l'autre. C'est pas à l'unisson, hein, c'est deux voix différentes. Ça a été facile de monter ce casting de comédiens, comédiennes, chanteurs, chanteuses?
Eh bien, c'était tout un art de trouver un équilibre entre des interprètes qui jouent et chantent et qui peuvent être aussi multi-instrumentistes. Donc il y a Léopoldine Guillaume, Félix Masson qui est au plateau, Romain Brosseau et Marie-Pascale Dubé. Dès le début dans les répétitions, on a travaillé la partition musicale et on a fait un gros travail de répétition des morceaux, de mise en place. Et les choses se sont faites, mais ça demande effectivement de la plasticité aux interprètes, d'être autant dans l'interprétation, le fait de raconter l'histoire, que de tenir la partition musicale, qui est exigeante.
Si le spectacle dure une heure et quart, vous allez passer presque une dizaine d'années en compagnie des personnages. Il y a beaucoup d'ellipses, de temps un petit peu diffracté, on va dire. C'est le propre du théâtre, de nous faire voyager sans passer 8 heures sur le plateau. Bon, voilà, c'est pas le soleil de Satin non plus, évidemment. On pourra terminer par évoquer le beau travail à la scénographie entre les dessins originaux de Sammy Stein et puis la réalisation grand format de Sophie Cardin. Ça a été évident pour toi directement de penser à ces deux personnes, ces deux artistes pour travailler avec Sentimental Fool?
J'avais déjà travaillé avec Samy Stein.
Stein, pardon.
Que j'ai rencontré à Rennes d'ailleurs avec Spéléographie. Et oui, je lui ai proposé parce que Samy, il a vraiment ce côté un peu cybermédiéval. Enfin, je l'avais déjà vu travailler dans ces esthétiques-là et je trouvais que ça m'inspirait aussi et j'avais envie de. Donc, je lui ai proposé. Et Sophie, je lui ai proposé. Je sais qu'elle est. Le travail de plasticienne et de scénographe, c'est vraiment son endroit. Et donc, on a travaillé à trois pour imaginer ce décor qui est assez léger, puisqu'il y a assez peu d'éléments, mais qui a qui se transforme. Et donc, c'est des supports d'images géants. Donc oui, et il y a aussi deux stagiaires qui ont aidé à la peinture. Donc, la confection de cette scénographie a été un sacré chantier. Tout est fait à la main. Ce qui reprend aussi l'aspect artisanal et traditionnel de la Compte Astoria.
Si vous connaissez toutes les références qu'on a évoquées avec Inès depuis le début de cette discussion, vous allez certainement adorer la Ligue des Flûtistes, mais si vous ne les maîtrisez pas toutes, ça sera un plaisir aussi et ça permettra d'aller vers des univers que toi tu apprécies et puis qui sont propices de toute façon au rêve, à la réflexion aussi, à l'imagination. Le spectacle en est à ses premières, jeudi et vendredi. Il va se balader vers la suite.
Oui, alors pour information, la première est complète. Donc il faut venir vendredi 3, réserver. Ensuite, on va être à la Nuit du Livre à Bécherel, au Festival d'Eria et à l'Inopiné de Questembert. Et on a quelques dates là qui se profilent aussi au printemps, une à Rennes et une en Mayenne. Et dans le festival aussi des Tombées de la Nuit, moi je joue dans le spectacle de l'Orphon Vieille qui s'appelle Les Parts Manquantes, qui est complet aussi, mais c'est aussi un plaisir de jouer dans sa ville, de commencer là.
Ça tombe bien, Les Parts Manquantes, c'est Léa qui vous en parle avec l'Orphon Vieille, juste après cette discussion avec Inès Cassignol. Merci beaucoup, retrouvez les infos, la billetterie sur lestombeesdelanuit.com. On écoute encore un petit peu de Georges Brassens. Merci et merde pour cette première.
On prend, merci beaucoup.
Le petit joueur de flûteau fit la révérence au château, sans armoirie, sans parchemin. Sans gloire, il se mit en chemin vers son clocher, sa chaumine, ses parents et sa promise. Nul ne disent dans le pays le joueur de flûte a trahi et Dieu reconnaisse pour sien le brave petit musicien.
Après la country française de Georges Brassens à l'instant, ce sera Léa qui s'entretiendra avec Laure Fontvieille autour de ce spectacle Les Parts Manquantes à voir dimanche du côté des Gailleuls.
Bonjour Laure Fontvieille.
Bonjour.
Vous êtes dramaturge, costumière et brodeuse. Avec votre compagnie La Mort est dans la boîte, vous vous apprêtez à partager avec le public rennais le spectacle Les Parts Manquantes dans le cadre du festival Les Tombées de la Nuit. Les Parts Manquantes, c'est une déambulation théâtrale autour de notre matrimoine commun, où les mortes et les vivantes dialoguent, qu'elles soient des femmes remarquables ou d'illustres inconnus. Alors comment vous est venue l'idée de ce spectacle ?
Alors ce spectacle, c'est un spectacle sœur de mon précédent spectacle qui s'appelle Celle d'en dessous, qui lui se joue en cimetière, et qui est un spectacle pour 5 comédiennes qui incarnent 5 femmes qui sont inhumées dans le cimetière dans lequel on joue. Et là, les parts manquantes, on est allé prendre la rue, sortir du cimetière, et c'est avec 15 comédiennes, donc c'était aussi une plus grande forme. Et donc l'origine de tout ça, c'est vraiment un jour, le service funéraire de la ville de Rennes, Nathalie Bidan à l'époque, m'a appelée pour avoir un rendez-vous avec moi. J'avoue que je suis allée au rendez-vous, je me suis dit... pourquoi cette personne veut me rencontrer ? Et elle était chargée de la valorisation du patrimoine funéraire. Et elle nous avait trouvé à cause du nom de la compagnie, La Mort est dans la boîte, où elle s'était dit, bon, a priori, ils vont pas avoir peur de la mort. Et elle avait vu que je faisais du théâtre documentaire. Et donc voilà. Et puis, j'ai fait une visite du cimetière avec elle. Et là, j'ai allié un peu mes trois passions, qui sont le théâtre, le costume et le féminisme.
Pour les parts manquantes, quelles ont été les grandes étapes de création ?
Avec mes collaboratrices artistiques, il y a 5 des comédiennes qui ont fait... on a fait 2 semaines de résidence à Redon, au Canal, le théâtre de Redon. Et avec aussi donc Delphine Batour qui m'accompagne aussi sur cette créa. Donc Marie Thomas, Inès Cassignol, Sophie Renoux, Hélène Vienne et Camille Cardellan. Et du coup, on a, pendant 2 semaines, en gros, on s'est présenté des personnages. Le but, c'était de trouver les personnages de la pièce. Donc, on a fouillé dans notre matrimoine commun. Et en gros, on se présentait des personnages. Et c'était assez drôle, puisque le matin, on travaillait. Puis les après-midi, on faisait un peu la pub pour que notre personnage soit retenu. Quoi. Voilà. Donc, on a fait ça pendant 15 jours. Et du coup, après, on avait notre distribution de personnages. Et ensuite... là, il y a eu aussi 3 semaines de création, donc avec les 15 comédiennes, donc dont celle que je viens de citer. Pour le coup, on a mis en place, enfin, on a répété les monologues. Moi, entre-temps, moi, j'avais écrit tous les textes. Donc, je suis partie en résidence d'écriture là, toute la saison dernière. J'ai aussi dessiné les portraits de ces femmes. On a créé un jeu de tarot aussi pour le spectacle, et on a continué aussi nos ateliers de broderie participative où on brode ces portraits de femmes en 2x2. Et puis je me suis aussi attelée au costume avec mes collègues costumières du TNB. On avait 3 semaines de création costume au Théâtre National de Bretagne. Donc tout ça, voilà, c'est beaucoup de prépa avant, et ensuite ça a été 3 semaines très rapprochées, et on vient de créer là le 14 juin à Strasbourg.
Et comment vous opérez le choix des personnages ? Qu'est-ce qui retient votre attention ? Pourquoi telle ou telle femme du passé ?
Et ben vraiment, ce qu'on s'est dit là avec l'équipe resserrée, là, on s'était dit, il faut des femmes qui aient un lien avec la France, mais en même temps, moi, j'avais envie de diversité. Il y avait aussi des sujets que je voulais aborder. Et vraiment, voilà, après là, on est parti en recherche, chacune dans son coin. Et quand se présentaient ces femmes, donc les après-midi, il y a vraiment eu à chaque fois une évidence. Donc je me souviens par exemple de Katia Kraft, qui est un de nos personnages, qui est interprété par Jisoo Jeong dans le spectacle, où je crois me souvenir que c'est Delphine qui nous a présenté Katia Kraft, et où toutes on s'est dit « waouh, mais... » Voilà, donc les volcanologues avec Maurice Kraft qui sont morts sur les volcans. Enfin, on s'est dit « waouh, mais c'est dingue, enfin, cette histoire est dingue, c'était une évidence quoi ». Donc à chaque fois comme ça, il y a eu des évidences, et aussi on voulait qu'elles soient connues mais pas trop connues. C'est-à-dire souvent, c'est des femmes qui ont été soit des fois très très connues à leur époque et invisibilisées ensuite, Et par exemple, donc je cite toujours cet exemple, mais il ne va pas y avoir une Gisèle Halimi dans notre spectacle, mais par contre, il va y avoir Gerty Archimède, qui est à peu près de la même époque, qui est avocate aussi de Guadeloupe, et qui a notamment défendu Angela Davis, voilà, et qui n'est pas assez connue. En tout cas, je trouve, en tout cas que moi, je ne le connaissais pas. C'est comme ça qu'on a avancé.
Comment vous définiriez le matrimoine ?
Alors, le matrimoine, on a tous et toutes notre héritage culturel en commun. Il y a, en gros, tout ce qui vient de nos pères, qui est le patrimoine, et tout ce qui vient de nos mères, qui est le matrimoine. Voilà, la
tout
définition
simplement.
La plus simple.
Les parts manquantes, c'est une déambulation dans l'espace public. Pourquoi ce choix plutôt qu'une pièce de théâtre dans une salle ?
Alors du coup, ce choix, donc pareil, ça remonte... donc Celle d'en dessous, le spectacle en cimetière, il se trouve qu'il y a une version de Celle d'en dessous qu'on avait jouée au Théâtre de la Paillette à Rennes, avec le petit cimetière Saint-Cyr, qui se trouve au parc Saint-Cyr, mais qui est tout petit, qui abrite des sœurs, des bonnes sœurs. Et donc là, on était déjà sortis du cimetière, puisqu'on avait utilisé les noms de rues dans le quartier. Et cette fois-là, en prenant la rue, avec nos costumes d'époque, nos broderies, je me suis dit, mais oui, prenons la rue aussi de cette manière-là, nous les femmes, ou moi en tout cas, personnellement, je suis pas hyper à l'aise forcément dans la rue, enfin de plus en plus. Et donc je trouve ça chouette aussi de s'approprier la rue. Il y a aussi dans les parts manquantes, c'est-à-dire que le décor pour moi, c'est beau de se dire, ces femmes, elles ont pu traverser ces rues-là. Nos personnages, ils vont du Moyen-Âge à aujourd'hui presque. Et donc de se réapproprier cet endroit. Et d'ailleurs, c'est pas toujours simple de répéter dans la rue en tant que femme.
Et est-ce que vous avez des anecdotes à ce propos ?
Alors oui, on a eu une attaque de chien, voilà, ou sur une comédienne qui était en costume, où du coup la propriétaire du chien pensait que c'était quelqu'un un peu de... une folle sous un pont en costume d'époque, voilà. On a eu des hommes un peu alcoolisés qui s'incrustent et qu'il faut réussir à être un peu tranquille. C'est surtout en répétition. Quand on joue, le public nous protège. En répétition, oui, voilà, des ados, des gens dans la rue qui... non seulement quand on est une femme dans la rue, c'est déjà compliqué, mais si on est une femme en costume d'époque, c'est encore plus compliqué.
Vous avez joué dans plusieurs villes.
Oui.
Comment ça se passe au niveau du choix des femmes du passé ? Est-ce que vous vous dites, il y aura une proportion de femmes qui viennent de ce territoire ?
Alors, il y a toujours, dans toutes les villes dans lesquelles on joue, moi j'écris, à chaque fois je réécris le portrait de celle que j'appelle mon illustre inconnue, c'est-à-dire je cherche une femme qui n'a pas forcément été connue pour ce qu'elle a fait, mais c'est aussi pour montrer que toute vie mérite récit. En fait, toute vie est dingue, toute vie est extraordinaire quand on s'y intéresse. Donc ça, il y a toujours dans toutes les villes un portrait comme ça, et ensuite dans tous nos personnages, là par exemple on est allé jouer à Waldersbach, dans les Vosges, et donc Katia Kraft, que je vous en ai parlé tout à l'heure, était alsacienne, donc c'était c'est assez évident qu'elle va jouer là-bas. On joue à Bordeaux en septembre, et donc je vais faire aussi des ateliers de broderie, donc participatifs, et on va évidemment broder le portrait de Rosa Bonheur, qui est née à Bordeaux et qui est plutôt connue là-bas.
À Rennes, ce dimanche, vous jouez dans le quartier de Maurepas. Pourquoi ce choix ?
Alors c'était un peu les tombées de la nuit cette année, ils sont au Tabor et aussi ils investissent Maurepas, donc moi j'avoue que j'avais ma préférence pour aller jouer à Maurepas, pour plein de raisons. Alors je crois que la première, c'est moi-même. Alors moi je suis toulousaine et je viens du Mirail, un quartier populaire. J'ai grandi toute mon enfance là-bas. De deux, dans ma vie personnelle, je déménage à Maurepas, il se trouve, dans 15 jours. Donc je me dis super, allez, allons jouer là-bas, et comme ça ça va me permettre de connaître mon quartier, mon nouveau quartier. Donc pour moi c'était assez évident d'aller jouer à Maurepas, ça m'intéressait beaucoup plus que de jouer au centre-ville.
Est-ce que vous pouvez peut-être, pour faire un petit peu office de teaser pour le spectacle de dimanche, nous donner à entendre le récit d'une femme de Maurepas ?
Ah, j'ai pas envie de spoiler. Mais en tout cas, si, ce que je peux dire là-dessus, c'est que quand je suis allée donc, à Maurepa faire mes repérages donc, avec Delphine Batour, et puis moi aussi j'étais allée un peu avant et que j'ai rencontré les gens, tout le monde, à chaque fois que je disais « bon, bah, il me faudrait un portrait d'une histoire inconnue, vous pensez à quelqu'un qui a vécu ici », tout le monde m'a parlé de la même personne. Tout a convergé vers elle, et donc je pense que c'est assez évident que ce soit elle, et voilà. Donc j'ai pas envie là de, faut venir voir le spectacle. Je pense que j'ai trouvé une illustre inconnue qui est pas vraiment inconnue dans le quartier, quoi.
Et quelle sensation ça procure d'être dans l'espace public?
Ah bah c'est super, je dis, mais parce que c'est surtout au niveau des décors, de la scénographie. J'adore faire les repérages et me dire, enfin on trouve notre décor dans la rue, quoi. Voilà, un mur de graphe, un arbre magnifique, ou un bâtiment, enfin voilà, tout, à chaque fois j'essaye de trouver qu'est-ce qui raccorde au personnage, et c'est quelque chose. Après c'est pas simple parce qu'il y a tous les bruits de la ville, de la nature, de voilà. C'est vraiment plaisant de se dire, je pense que dans ce spectacle ça joue, de se dire, ah tiens, cette femme, c'est comme si elles apparaissaient comme ça, elles sont mortes, on le sait bien, elles sont toutes mortes. Mais là, tout d'un coup, elles sont vivantes devant nous pendant un instant et qu'on se dit, tiens, elle a pu traverser cette rue, elle a pu sortir de ce bâtiment un jour, elle a pu, même si des fois, elles n'ont pas forcément de lien avec la ville de Rennes, par exemple, mais voilà, ça nous les ramène à nous.
Vous l'avez dit, c'est pas forcément évident de jouer dans l'espace public puisqu'il y a les bruits de la circulation. Comment les comédiennes se mettent-elles en condition pour pouvoir interpréter leur rôle?
Alors ça, bah, faudrait leur demander, surtout à elles. Je pense, elles sont... Finalement, là, j'ai vu en répétition, c'était un peu ma crainte de me dire, oh là là, j'espère qu'elles vont toutes être assez à l'aise et tout. Et j'ai l'impression qu'elles ont toutes quand même assez à l'aise dans la rue, ou qu'en tout cas, ce projet... où il y a aussi une grande sororité aussi entre nous, fait que des fois elles attendent ensemble, puis elles se retrouvent après, et puis donc là-dessus, elles prennent la rue, elles parlent fort et elles s'imposent. Et d'ailleurs, on rameute aussi des spectateurs et spectatrices qui n'avaient pas pris leur place ou qui n'avaient pas, puisque les gens passent et s'arrêtent. On a eu comme ça à Strasbourg plein de gens qui s'arrêtent et puis qui du coup nous suivent après ou qui reviennent l'après-midi parce qu'on jouait aussi le matin et l'après-midi à Strasbourg. Quand il y a du public, le public il fait force, quoi.
Est-ce qu'il y a des moments où il y a des interactions avec le public pendant le spectacle?
Oui. Tous les personnages sont en adresse directe avec le public.
Et quels ont été les premiers retours du public, que ce soit à Strasbourg?
Une grande émotion à Strasbourg. Et ce qu'on m'a dit aussi beaucoup là à Strasbourg ou à Waldersbach, une grande joie aussi, une grande force. Beaucoup. Alors souvent c'est des femmes qui m'ont dit ça, mais qui m'ont dit ah mais ça nous donne envie de faire des choses, quoi. Et en tout cas moi c'était mon but. Moi c'est un peu ma société rêvée, quoi. Les parts manquantes, ça m'émeut aussi. Enfin, c'est comme si j'avais construit là ma société rêvée de toutes ces femmes, si on les écoutait, mais ça le monde serait parfait. Et du coup, oui, il y a des choses dures dans la vie. Enfin, elles racontent pas que des joies, il y a des choses horribles, des injustices, voilà. Mais ça nous donne, je voulais ça, que ça donne aussi la joie, la force et on... continuer à vivre ensemble.
En écho au spectacle Les Parts Manquantes, il y a aussi une exposition à Rennes qui a lieu à l'espace social commun Simonif. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette exposition?
Oui, alors ça fait donc quelques années depuis, donc c'est pareil, hein, c'est depuis celle d'en dessous, voilà, le spectacle Sœur des Parts Manquantes. C'était justement à La Paillette l'année, avec le théâtre La Paillette, on avait initié ça. On a commencé à faire des broderies géantes participatives. Donc on a un cadre de broderie qui fait 2 mètres sur 2 et puis on s'installe n'importe où, dans les centres sociaux, les médiathèques, les théâtres. Et les gens, tout le monde est la bienvenue, débutants, viennent broder. Et donc, pour l'instant, on a 6 broderies qui sont finies depuis le début de cette aventure. J'ai calculé, il y a plus, je crois qu'on est à 400 personnes qui ont venu participer. Et donc là, il y aura ces 6 portraits brodés qui seront donc effectivement exposés au Centre Social Simonif pendant tout l'été. Et c'est chouette aussi de se dire, moi je fais des petites broderies, moi, chez moi. Toute petite. Et puis là, de se dire, en fait, à plusieurs, On est capable de faire ça, quoi, avec des pointes très simples.
Merci beaucoup, Laure Fontvieille. Les parts manquantes, c'est ce dimanche à 16h dans le quartier Maurepas.
Merci. Merci.
Info sur le site lestombeesdelanuit.com. On se retrouve vendredi pour une deuxième et dernière émission consacrée totalement aux tombées de la nuit. On y parlera avec Sébastien Barrier et puis vous pourrez aussi tout savoir sur le spectacle rond d'une chorégraphie de Pierre Rigal grâce à Nadia. À vendredi donc pour une dernière émission Le Grand Tout de la saison. Ciao et bonne tombée de la nuit. Red American dynasty. Who knows if she never showed up? What could it be? There goes the sickest woman this town has ever seen.